Vous êtes sur RTL.
Vous retrouvez pour 2 heures d'infos et à la une, D-Day, le monde se souvient, ok, let's go. C'est par cette simple phrase que le 5 juin 44, il y a pile 75 ans, le général Eisenhower donnait le coup d'envoi du débarquement, 150 000 soldats alliés embarqués alors pour libérer la France, libérer de la barbarie nazie. Les commémorations ont débuté aujourd'hui à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, donc en présence notamment de la reine Elisabeth II, de Theresa May, de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Le président français qui est attendu d'une minute à l'autre à la prison de Caen pour rendre hommage aux résistants fusillés. Demain, il va retrouver Donald Trump en Normandie pour la suite de ses cérémonies d'anniversaire. Alors dans RTL Soir, on va revivre cette journée historique. Nous serons en direct de Caen avec Emmanuel Macron et à 18h35, rencontre avec un héros français du D-Day, le vétéran Gérald Covin. Il y a 75 ans, il embarquait pour Sword Beach, une des 5 plages du débarquement. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Gérard Collomb perquisitionné à Lyon. L'ancien ministre de l'Intérieur est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Il aurait accordé pendant 20 ans des emplois municipaux à son ancienne compagne. Le déjeuner des ex, Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez se sont vus à la mi-journée. Et selon les informations d'RTL, l'ancien président a plutôt joué les grands frères consolateurs. Xavier Bertrand, lui, livre une autre bataille. Le président des Hauts-de-France en appelle à Emmanuel Macron pour empêcher la fusion entre Renault et Fiat Chrysler. À suivre également, 36 heures de garde à vue pour le père de Laetitia Hallyday, soupçonné de fraude fiscale. Et puis le mondial de foot féminin à J-2, les filles se rapprochent du Parc des Princes. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en hausse de 0,45% à 5 292 points. Les courses à Laval, il fallait jouer l'As, le 10, le 11, le 2 et le 16.
Et à 18h20, savez-vous que l'air que vous respirez chez vous est plus pollué qu'à l'extérieur? Alors à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le premier invité d'un tel soir, c'est le PDG de Veolia, Antoine Frérot, qui se lance dans la propreté de l'air. Direction les coulisses de l'actualité, ensuite, à la recherche de la Cordelière et du Régent, ces deux bateaux mythiques avaient coulé en 1512 dans la rade de Brest. On vous amène en coulisses des fouilles qui viennent de reprendre. Alain Duhamel, 18h30, la difficile reconstruction de la droite. 19h15, 20h, on refera le monde. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Marc-Olivier.
Attention, 11 départements du Nord-Est sont actuellement en vigilance orange aux orages.
Oui, entre le Grand Est et la Franche-Comté, attention parce que ces orages peuvent être localement très violent. Du coup, demain, il y aura encore quelques averses et des nuages du nord-est aux Alpes du Nord, mais aussi de la Bretagne à la Vendée. Plein soleil des Pyrénées au Golfe du Lion et partout ailleurs, un ciel variable avec quelques brouillards. Dans l'après-midi, nouvelle dégradation qui arrive sur un quart nord-ouest avec des averses, quelques éclaircies ailleurs. Des éclaircies qui seront de plus en plus belles en allant vers la Méditerranée. Et on reviendra à des températures de saison entre 18 et 25 degrés en moyenne.
Très bien, tout à l'heure Peggy.
À tout à l'heure.
RTL Soir. Portsmouth, donc côté sud de l'Angleterre, c'est de là qu'a démarré il y a 75 ans, exactement, jour pour jour, le plus grand débarquement de l'histoire, Isabelle.
En une journée, 150 000 hommes ont pris pied sur le sol français. 10 000 sont tombés au combat, blessés ou disparus. Leur sacrifice a permis de libérer l'Europe de l'emprise nazie. À Portsmouth aujourd'hui, il restait une dizaine de vétérans et pour commémorer avec eux ce D-Day, les dirigeants français, américains et britanniques. Marie Billon, vous avez suivi cette cérémonie pour RTL, cérémonie particulièrement émouvante et pas seulement pour les anciens.
Et oui, ce vétéran de 99 ans notamment qui se rappelait de son arrivée en Normandie a beaucoup touché, mais aussi les lettres lues par les chefs d'État et de gouvernement, notamment le message d'adieu d'Henri Ferté à ses parents, résistant de 16 ans, exécuté en 1943, lu par Emmanuel Macron.
Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir.
Very good indeed. Thoroughly enjoyed it.
C'était très beau, mais j'aurais aimé qu'ils traduisent en anglais. Le message de la reine aussi était très poignant, surtout son humilité face aux vétérans quand elle les a remerciés.
Heureux de cette incursion dans l'état d'esprit des soldats de l'époque et avec l'impression de comprendre un peu mieux comment s'est organisée cette immense opération, beaucoup ont aussi passé un bon moment.
J'ai adoré la musique, ça a beaucoup fait pour l'ambiance. Les chansons étaient bien et surtout, c'était des chants très entraînants.
Les discours étaient en effet ponctués de titres populaires des années 40, mais aussi de morceaux comme le chant des partisans, des résistants français.
À Port- Smooth pour RTL Marie Billon. Voilà pour le versant britannique des commémorations. Mais l'essentiel va se jouer demain en France, Isabelle.
Dès ce soir, Emmanuel Macron rend hommage à des résistants fusillés à l'aube du D-Day à la maison d'arrêt de Caen. Et demain, effectivement, il posera la première pierre du mémorial britannique de Vers-sur-Mer avant la grande cérémonie de commémoration du débarquement à Colville-sur-Mer aux côtés de Donald Trump. Un tel déploiement de personnalité exige évidemment un dispositif de sécurité exceptionnel. Nicolas Burnand, vous avez assisté pour RTL à une opération de déminage au cimetière britannique de Bayeux.
Sur la pelouse du cimetière, Guillaume, maître chien, promène son berger belge malinois entre les tombes, les chaises et les échafaudages installés pour les cérémonies. Avec sa main, il lui indique les endroits reniflés à la recherche d'éventuels explosifs.
Partout où le chien peut montrer un intérêt, on lui facilite la tâche en ouvrant les boîtes ou les déplaçant. Nous, on doit apprendre à lire notre chien et lui nous fait ce qu'on lui demande.
À l'écart, Laurent coordonne les opérations de déminage sur ce site. Il fait partie du groupe cynophile de la gendarmerie de Caen.
Le chien, il cherche comme une forme de quête. Hein, ça peut être des caches en l'air, hein, dans les arbres, ainsi de suite, parce qu'il peut y avoir de l'explosif à n'importe quel endroit. Une fois que le cimetière va être décontaminé, le lieu va être sécurisé et plus personne ne pourra rentrer.
Ce chien est également capable de détecter des charges explosives sur une personne en mouvement, dans une foule par exemple. Guillaume, son maître, se réjouit de participer aux célébrations du débarquement.
Au niveau du travail, c'est une mission comme les autres. Après, c'est toujours intéressant de venir travailler pour quelque chose d'historique. On est aussi militaire, donc du coup, on peut sentir une fierté de travailler là.
Sur l'ensemble des sites, demain, ce sont près de 5700 membres des forces de l'ordre qui seront déployés pour sécuriser les commémorations.
Au cimetière britannique de Bayeux pour RTL, Nicolas Burnand à 18h35, notre invité, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. À moins d'un an des municipales, Isabelle, Gérard Collomb est dans la tourmente.
L'ancien ministre de l'Intérieur fait l'objet d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir fait bénéficier son ancienne compagne de plusieurs emplois municipaux, et cela depuis plus de 20 ans. La mairie et le domicile de Gérard Collomb sont perquisitionnés depuis ce matin. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Les soupçons portent sur une somme qui flirte avec les 500 000 euros.
Absolument, montant qui correspond au total des salaires perçus par l'ex-madame Collomb depuis 1995. Le couple s'est séparé en 1999, mais Meriem Nouri, c'est son nom, a occupé des emplois municipaux jusqu'à aujourd'hui. Les policiers de l'OCLIF, l'Office central de lutte contre la corruption, s'attachent donc à établir si elle a pu bénéficier de faveurs, si les rémunérations correspondaient à un travail réel ou fictif, et cela suite à deux signalements à la justice, l'un de la Chambre régionale des comptes dans un rapport confidentiel récent, et un autre de Gérard Collomb lui-même, informé par ses services en février dernier, selon son communiqué d'hier soir. Alors les investigations sont menées à grande vitesse, puisque selon nos informations, l'enquête a été ouverte fin avril par le parquet financier, et deux perquisitions sont déjà en cours, délais extrêmement courts, inhabituels, mais cela se produit dans le contexte de la campagne des municipales, vous le disiez, qui ont lieu dans moins de 10 mois. L'ancien ministre de l'Intérieur est candidat à Lyon. La justice doit donc aller très vite pour lever le doute ou au contraire ouvrir une information judiciaire. C'est ce qui s'était produit pendant l'affaire Fillon.
Thomas Proutot du service police-justice de RTL.
Autre affaire embarrassante pour une autre ancienne ministre, Rachida Dati, qui est visée par une enquête pour abus de biens sociaux en marge de l'affaire Carlos Ghosn. L'ex-garde des Sceaux a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation.
Et décidément, c'est la journée des ex. Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez ont déjeuné ensemble.
L'ancien président et l'ancien patron des Républicains avaient calé ce rendez-vous avant les européennes. Évidemment, aujourd'hui, il prend une saveur un peu particulière. La rencontre a duré 1h30 dans les bureaux de Nicolas Sarkozy, rue de Miromesnil. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Vous avez eu quelques échos de cette conversation. Visiblement, l'ancien chef de l'État s'est montré plutôt aimable.
Oui, même plutôt bienveillant, déjeuner en tête-à-tête entre les deux hommes qui se connaissent bien, même si ces derniers mois, il se racontait qu'en coulisses, Nicolas Sarkozy n'épargnait pas son ancien ministre. Changement de ton ce midi, les Français, Laurent, vont commencer à te regarder autrement. L'ancien chef de l'État s'est voulu rassurant. Moi aussi, j'ai connu la haine, a-t-il expliqué. En 95, j'étais le traître. En 2007, on m'adulait. Référence à l'époque à son soutien pour Édouard Balladur, qui lui avait valu, après l'élection de Jacques Chirac, l'opprobre de tout le RPR. Nicolas Sarkozy, dont les conseils à droite sont toujours précieux, tu viens de leur enlever, a-t-il dit à Laurent Wauquiez. La seule chose qu'ils avaient en commun, le fait de te combattre. Et tu verras, Laurent, le rebond arrive plus vite que tu ne le penses. Un déjeuner qui fait du bien, dixit un proche de Laurent Wauquiez, dont c'était le dernier rendez-vous parisien ce midi. Il est désormais dans sa région, dans sa ville du Puy-en-Velay, où il devrait rester au moins jusqu'à la fin de l'été.
Information RTL signée Dominique Tenza du service politique. Autre rencontre au sommet, ça se passe au Sénat, entre Gérard Larcher et Xavier Bertrand.
Rencontre sur la reconstruction de la droite, mais à la sortie, le président des Hauts-de-France n'a pas souhaité en parler. Quand je vois les sujets que j'ai chez moi, comme Ascoval ou comme Renault, rien ne me détournera de ma mission, dit-il. Renault, qui est en passe de fusionner avec Fiat Chrysler, le conseil d'administration se réunit en ce moment même. Bonsoir Martial Youp.
Bonsoir.
Xavier Bertrand déploie beaucoup d'énergie pour freiner le dossier.
Oui, le groupe PSA qui espérait racheter depuis plusieurs mois Fiat Chrysler ne pouvait pas espérer un meilleur défenseur. Xavier Bertrand s'inquiète du mariage franco-italien et entend défendre l'avenir de ses deux sites Renault dans le Nord, Maubeuge et Douai. Il a donc écrit cet après-midi à Emmanuel Macron en personne avec une question. Pourquoi doit-on décider si vite de cette fusion ?
Qui y gagne vraiment et le plus dans un dossier comme celui-ci ? Renault est une avance technologique dans le véhicule électrique. C'est la même chose pour le partenaire ? Non. C'est fin mai qu'on a entendu parler de ce dossier. Fin mai. Et là, le 5 juin, il y a urgence pour s'engager dans une voie qui est quasiment, excusez-moi pour parler d'automobile, sans marche arrière. Vous n'avez pas un problème là ? Pourquoi une telle précipitation ?
Alors Xavier Bertrand est coutumier de ces coups de pression sur les îles et sur l'Élysée. Ça lui permet de mettre Emmanuel Macron en première ligne. En réalité, ses inquiétudes sont aussi celles de l'État qui veut garantir les emplois, les sites et les intérêts de l'État sans aller trop vite. C'est bien pour ça que les discussions ont débuté à nouveau ce soir après une longue réunion hier chez Renault. On sent bien que l'enthousiasme de la semaine dernière est un peu retombé aussi à Bercy.
Martial Youp, chef du service économie de RTL.
RTL soir, 18h11.
Une pause et dans un instant, le père de Laetitia Hallyday en garde à vue.
RTL Soir. Il est 18h12, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et le père de Laetitia Hallyday vient donc de passer 36 heures en garde à vue, Isabelle.
André Boudou a été entendu à Béziers dans le cadre d'une enquête financière. Il est soupçonné de fraude fiscale dans la gestion de sa discothèque L'Amnésia au Cap d'Agde. La garde à vue a été levée cet après-midi. Aucune charge n'a été retenue, mais l'enquête se poursuit. Et c'est toute la famille qui est touchée, Jean-Alphonse Richard.
Absolument, André Boudou est ce soir le troisième membre de la famille à avoir dû répondre à la police judiciaire. Investigation destinée à mêler le montage financier complexe de L'Amnésia, la discothèque familiale du Cap d'Agde, création de André Boudou, plusieurs sociétés imbriquées les unes dans les autres, dans lesquelles André Boudou, 67 ans, n'a officiellement plus aucune participation depuis 2007, sa condamnation pour abus de biens sociaux. À cette époque, c'est son fils Grégory qui avait pris les rênes de L'Amnésia. Grégory Boudou a ainsi été le premier placé en garde à vue l'année dernière. Sa sœur, Laetitia Hallyday, information du journal Midi Libre que RTL vous confirme ce soir, a également été entendue. C'était à l'automne dernier à Paris, audition rapide, pas de garde à vue. Laetitia entendue comme simple témoin car son nom apparaît dans l'une des sociétés qui détient les murs de L'Amnésia, société dans laquelle elle n'a aucune activité. D'autres membres de la famille Boudou pourraient être prochainement interrogés.
Information de Jean-Alphonse Richard du service police justice de RTL.
Rome dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne propose de placer l'Italie en déficit excessif en raison de son énorme dette. Matteo Salvini a déjà clamé son intention d'être têtu.
Allez le foot, J-2 pour le mondial féminin.
Premier match vendredi pour les filles de Corinne Diacre, ce sera contre la Corée du Sud au Parc des Princes. Dès aujourd'hui, les joueuses ont quitté Clairefontaine pour se rapprocher du parc, Sylvain Charlet.
Oui, en effet, avant de passer plusieurs jours à Nice, puis à Rennes, les filles de l'équipe de France ont rejoint un des hôtels de la compétition qui est choisi par la Fédération Internationale, la FIFA. Elles passeront donc la nuit à Rueil-Malmaison, à une dizaine de kilomètres du Parc des Princes, une enceinte que plusieurs joueuses découvriront demain pour la conférence de presse et la séance d'entraînement à 24 heures du match d'ouverture, un moment qu'attend depuis longtemps l'avant-centre de Montpellier, Valérie Gauvin.
Pour moi, ce sera une première dans le Parc des Princes, que ce soit y mettre le pied ou rentrer juste dedans ou même de le voir de loin, à part à la télé. Hein. Mais en vrai, j'ai jamais été dedans ou j'ai jamais été allé voir un match ou quoi que ce soit. Donc ça sera particulier pour moi, ça c'est sûr. Ça va être incroyable parce que, enfin, il va y avoir beaucoup de monde, il y aura la famille qui sera présente aussi et ça va être incroyable.
Et ça, ce sera pour vendredi soir. L'impatience de Valérie Gauvin sur qui Corinne Diacre pourra compter vendredi soir pour ce match d'ouverture. Une sélectionneuse des Bleus quelque peu inquiète. Elle espère également pouvoir aligner sa capitaine, Amandine Henry, sa buteuse, Eugénie Le Sommer, et les deux défenseurs, Amel Majri et Grit Djembok, quatre joueuses qui étaient victimes de pépins physiques ces derniers jours.
Merci Sylvain Charlet.
Le foot encore. Sachez que le gardien italien Gianluigi Buffon quitte le PSG. Et je ne vous parle pas du tennis. Aucun match cet après-midi à Roland-Garros, il pleut, figurez-vous.
À tout à l'heure, Isabelle, vous revenez à 18h30.
18h15.
À suivre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, focus sur les liens entre la qualité de l'air et la santé avec le premier invité d'RTL Soir. C'est le PDG de Veolia, Antoine Frérot. Le groupe se lance dans la propreté de l'air.
RTL Soir.